Ça y est, tu enregistres là?
Bonjour, c'est l'heure du documentaire et c'est un portrait de Janusz Korczak que nous proposent Dominique Prusak et Anna Schmuck. Les souffrances des petits ne sont pas des petites souffrances, alors aidons-les, écoutons-les. Écrivait Janusz Korczak. On sait de lui qu'il est né en 1878 à Varsovie. Devenu médecin et pédiatre dès les années 20, il s'est intéressé à l'éducation des enfants. Travaillant dans les orphelinats, il a mis en place un mode de vie démocratique, organisé selon les principes de justice et d'égalité en droit, avec des obligations pour tous. C'était la République des enfants, avec son petit journal réalisé par et pour les enfants. Il était persuadé qu'un éducateur brutal peut rendre enragés les enfants les plus doux. Celui qu'on appelait le vieux docteur était aussi un homme de radio où il intervenait avant la Seconde Guerre mondiale et bien sûr sa vie dans le ghetto, puisqu'à partir de l'invasion de la Pologne par les Allemands le 1er septembre 1939, la maison des enfants de Janusz Korczak est déplacée derrière les 18 km de murs et barbelés. Celui qu'on appelait le vieux docteur masque la lumière des fenêtres pour cacher la misère et la tragédie aux enfants.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Vous allez bien?
Oui.
Alors, moi je m'appelle Elsa. Je vous présente Gisèle qui est dans ses papiers. On fait l'atelier toutes les deux ensemble pendant 3 jours au salon de Montreuil. En quelle classe vous êtes?
CM2A.
CM2A. Très important, lui. Vous êtes content d'être venu au salon, ça s'est bien passé?
Oui.
Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes venu dans cette salle? Oui, il y en a qui savent. Alors, j'entends pour faire un atelier, pour voir une pièce de théâtre et quoi d'autre? Pour raconter une histoire? Faire une histoire. Est-ce qu'on vous a parlé de Janusz Korczak? Alors, Janusz Korczak, c'est un nom bizarre déjà. Vous arriveriez à le dire, Janusz Korczak?
Janusz Korczak!
Impeccable. Vous recommencez une fois pour moi?
Janusz Korczak!
Janusz Korczak, la parole est aux enfants. Par Dominique Prusak et Anna Schmuck.
Dzień dobry.
Dzień dobry, panie doktorze.
Pogadanki starego doktora.
Kłamie ten, kto mówi, że się dla czegoś lub dla kogoś poświęca. Jeden lubi karty, inny kobietki. Ktoś nie opuszcza wyścigów konnych, a ja kocham dzieci.
J'aime bien le vieux docteur, comme on l'appelait. C'était certainement un moment de famille. Et mes parents, tous les deux, aimaient bien écouter avec moi. Et puis j'avais besoin de l'aide pour
Halina Bortnowska.
Se débrouiller avec la radio. J'avais 5 ans ou quoi, c'était pas permis que je manipule la radio moi-même sans assistance. C'était un grand appareil, une chose assez exceptionnelle à ce temps. Et mes parents aimaient aussi bien le style de sa démarche auprès des enfants. J'avais l'impression qu'il parle à moi. Après tout ce temps, je ne me rappelle plus qu'est-ce qu'il disait. C'était un peu pour les enfants la rébellion. Et il ne nous disait pas qu'est-ce qu'il faut faire, mais plutôt quels sont nos droits. Ça, je sais plus tard expliquer, mais j'aimais bien cette atmosphère qu'il parle à nous et que nous sommes importants, pas seulement les parents. On avait l'impression qu'il nous écoute et il était possible d'écrire des lettres. Mais malheureusement, la première lettre que nous avons osé écrire, c'était pour protester contre la fin de ce petit discours. C'est quoi qu'on peut traduire Pogadanka comme petit discours?
Ja nie zajmuję się polityką, tylko wychowaniem.
Tym niemniej jednak pańska osoba budzi pewne kontrowersje, są naciski.
Vous savez que Janusz Korczak était un juif et les gens de droite n'étaient pas satisfaits par le type de discours qu'il donnait. Et il disait aussi qu'un juif ne peut pas enseigner nos enfants. Alors nous avons écrit une lettre en disant que voilà, nous voulons écouter le vieux docteur. Et ça a quand même donné quelque chose. Et le petit discours sont revenus pour un certain temps, et puis c'était le temps avant la guerre où tout a changé.
W tej sytuacji moja propozycja nie ma żadnego sensu.
Na razie. Na razie.
À la maison, on lisait Korczak, on écoutait Korczak. Les jeunes Polonais étaient passionnés de Korczak. Ils parlaient à la radio. Il y avait les causeries du vieux docteur, mais on l'écoutait. Et puis surtout, surtout, tous les vendredis, il y avait un petit journal qui paraissait, la petite revue, qui était fait uniquement par les enfants, par des jeunes, qui éditait le journal, qui choisissait les articles. On pouvait écrire au journal, qui vous répondait. De même que quand Korczak faisait une causerie à la radio, on pouvait lui envoyer des confidences, des problèmes, etc. Il vous répondait également. Alors moi j'ai rencontré des vieilles dames et des vieux messieurs qui me disaient tout fiers, oui, j'avais envoyé telle chose, tel poème à Korczak, il l'a publié. J'ai envoyé telle lettre, il m'a répondu. Donc, vous voyez, ça compte.
Co? Co się stało? No, chodź, 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 chodź. Co jest? Chodź, 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 chodź.
Agnieszka Holland, vous êtes la scénariste de Korczak, le film qu'a réalisé Andrzej Wajda. Votre film, Agnieszka, commence par les causeries du vieux docteur. À quoi ressemblaient ces causeries?
Sven, l'espèce de talk show. Il était très charismatique. Il y avait une sagesse, mais aussi un humour, une façon très directe de parler des gens. Et c'était très convaincant pour les gens, c'était très populaire. Mais je pense que beaucoup de gens avec qui j'ai parlé encore dans les années 70, quand j'ai commencé à m'intéresser à écrire quelque chose sur Korczak, ont eu les souvenirs de ces émissions. Et ça marquait beaucoup de gens. Il a aussi, il a une idée, il a participé à un journal qui s'appelait Nasz Dziennik. Et il a créé la section pour les enfants, qui s'appelait le Petit Journal. Et cette section pour les enfants était rédigée et écrite par les enfants eux-mêmes. Et dans ce journal-là, le petit journal, mon père a commencé à écrire. Il avait 8 ans quand il a commencé. Il était déjà une espèce de révolutionnaire, un jeune anarchiste à l'époque, après il est devenu communiste. Et mon père, que je connaissais seulement jusqu'à l'âge de 13 ans, après il s'est suicidé, m'a jamais raconté de ses propres parents qui ont péri dans le ghetto de Varsovie. Toute sa famille, sauf une sœur, était morte dans le Shoah. Mais en son vivant, il m'a jamais parlé de ses parents, par exemple. Mais il m'a parlé de Korczak. C'est-à-dire pour moi, Korczak est devenu un peu une figure de grand-père que je ne connaissais pas.
J'aime surtout ces photos où il n'est plus jeune, mais où l'appellation le vieux docteur est justifiée par son visage. Et il jouait un peu un homme plus vieux qu'il n'était. Et ça lui donnait un peu la position d'un grand-père pour tout le monde. Mais dans son âme, il était possible de souffrir comme un enfant.
Est-ce que vous avez lu Le Petit Prince de Saint-Exupéry ? Eh bien voilà, tous les enfants français qui vivent en France, ils ont entendu parler du Petit Prince. Le roi Mathias Ier, c'est pareil pour la Pologne. Tous les enfants polonais, ils ont entendu parler ou ils ont lu le roi Mathias Ier. Le début de l'histoire du roi Mathias Ier, qu'est-ce que ça pourrait être, sachant qu'il travaillait avec des orphelins, Korczak ? C'est donc l'histoire d'un petit roi, donc c'est l'histoire d'un enfant roi qui a 5-6 ans, qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire et qui va devenir roi parce que son papa meurt. Donc il devient roi tout jeune, il a 5-6 ans. Il est assez seul parce qu'il est roi, donc il va pas en classe, il a pas de copains. Il va se faire un ami qui s'appelle Félix. Maintenant, si je vous ai dit ça, qui pourrait inventer une suite ?
Il serait roi, nous deux, on serait roi ensemble. Je vais l'apprendre à lire et à écrire. Et il va venir de notre école, Jean Jaurès. Ben, en CM2A comme nous.
Et le premier de la classe.
Et Phoenix, il sera le frère à Mathias.
Bah, il a engagé une boniche. Et elle savait lire et écrire.
Ça sera le meilleur lecteur du monde. Il écrira des livres pour l'orphelinat. Bah, pour que les enfants dorment avant une histoire.
Bah, en fait, le roi, il va dire tout le monde a une famille. Et tout le monde va avoir une maison et des parents. Il va trouver des parents pour tout le monde. Après, il dit, je donne des maisons et tout et tout. Et il va s'en trouver une famille aussi.
Et ils vont voyager en Pologne.
Oui.
La photo quand il était petit. Là, il a 8-9 ans. Vous voyez, un petit peu bourgeois, n'est-ce pas, etc. Vous m'avez dit, il s'appelait Janusz Korczak. Alors, je vous dirai, est-ce que c'était son vrai nom ? Vous savez, les hommes de lettres, parfois, aiment bien prendre un nom. Et il a pris le pseudonyme de Janusz Korczak. C'était un héros d'un roman polonais d'aventure, de chevalerie, etc. Mais son vrai nom, c'était Henryk Goldschmidt. Donc, Henryk Goldschmidt est né en 1878 en Pologne. Donc, quand il était tout jeune, en fait, il se préparait également à la médecine. Hein. Ça, vous le saviez que c'était un médecin ?
Non.
Ah, très important.
J'avais une grand-mère polonaise, et quand elle venait chez nous et que mes frères et sœurs étaient dans leur berceau, je l'écoutais chanter. Elle aimait beaucoup chanter et elle nous chantait des chansons yiddish. Donc c'est une toute petite berceuse avant de nous endormir, voilà. Aïe lilililu chepsele, aïe lilililu meidele, aïe lilililu chepsele meidele ma. Lou chepsele ma, alou 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 meidele ma. Lou chepsele ma, alou 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 meidele ma. Lou chepsele ma. Ça veut dire « Endors-toi, ma petite poupée, endors-toi, mon petit mouton. » Korczak ne parlait pas le yiddish parce qu'il était d'une famille bourgeoise et toute la bourgeoisie juive polonaise, il y avait un grand désir d'assimilation. Donc on parlait le polonais, on parlait le russe et puis l'allemand, qui était aussi une langue de culture. Et ce que j'ai appris de Korczak par rapport à sa maîtrise des langues, mais je sais que dans ma famille, dans les milieux populaires, on parlait beaucoup plus de langues. Donc, dans ma famille maternelle, on parlait donc le yiddish dans la famille, mais quand on sortait, quand on allait à l'école, c'était le polonais. La langue de travail, de commerce, c'était le russe quand il y avait l'Empire tsariste. On parlait l'allemand parce que c'était aussi une langue de culture et très proche du yiddish. Et puis, bon, bien sûr, l'hébreu. Voilà.
Colette Charlet, vous connaissez très bien l'œuvre de Korczak, l'histoire de Korczak. Comment peut-on comprendre son engagement absolu envers les enfants?
Je pense aussi que son engagement est venu par les événements qu'il a vécu. Quand on sait que très tôt, il a été mêlé donc aux guerres, et pendant ces périodes de guerre effroyables, il a rencontré des enfants qui étaient complètement meurtris. Et quand on lit ce qu'il faisait avec ces enfants, je pense que c'était déjà le début d'un engagement. Et c'est à partir de là qu'il a pu ensuite construire son œuvre éducative et son engagement de médecin. Et pour moi, c'était aussi une implication non violente. Ça aussi, c'est un des aspects qu'on ne souligne pas assez, je trouve, dans les mouvements qui se disent du pacifisme, dans des mouvements non violents. On devrait aussi, je pense, prendre en compte aussi toute cette expérience qu'il a fait en direction des enfants qui ont souffert. Alors, c'était avant, il y avait une guerre, avant la Première Guerre mondiale, qui concernait la Russie, puisque la Pologne faisait partie de l'Empire tsariste. Et pendant la Première Guerre mondiale, la façon dont ils soignaient les enfants, et ensuite, bien sûr, entre les deux guerres, quoi. Ce sont des choses aussi qui créent de la solidarité. Ça, c'est la question pour moi fondamentale, c'est la question de l'éthique. Et un éducateur qui n'a pas d'éthique, dans ce monde de la marchandisation, c'est vrai que c'est difficile à accepter, mais ça ne me quitte jamais, l'éthique. Coûte que coûte.
Il va créer son propre orphelinat, la maison de l'orphelin à Varsovie, qui ouvre en 1911. Et là, il va créer des outils pour travailler avec les enfants qui sont très intéressants. Parce que la grande idée de Korczak, c'est la suivante. Comment obtient-on une vie sociale qui soit agréable pour tout le monde? C'est fondé sur quoi, à votre avis?
Sur les lois? Les exemples des adultes.
Oh, c'est bien, mais ça, c'est formidable. C'est ça, les grandes idées de Korczak. Alors, les lois, pourquoi des lois? À quoi ça sert, des lois, à votre avis?
Pour fixer des limites.
Des limites? Oui, on va se demander des limites. À quoi?
Parce que s'il n'y aurait aucune loi, ce serait un peu n'importe quoi. Enfin, il n'y aurait pas vraiment un sens pour réussir à construire de nouvelles choses, que tout le monde se respecte ou des choses comme ça.
Voilà, que tout le monde se respecte, oui. Et on peut le dire encore d'une autre façon, il y avait encore d'autres mains qui se
levaient. Vas-y,
Emilien, vas-y. C'est ce que je voulais dire.
Ah. Oui.
Aussi pour mettre tout le monde sur un pied d'égalité, les lois. Pour dire que tout le monde ne doit pas faire.
Oui.
L'ordre,
c'est quoi l'ordre? L'ordre et les limites. Les limites à quoi? On va revenir sur cette histoire de limites parce que ça me plaît bien. Oui.
L'ordre à ce que les enfants peuvent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire.
Ce qu'on peut faire et ce qu'on ne doit pas faire. Oui, mais quand même des limites à quoi?
Bah, par exemple, ne pas jeter la nourriture par terre, trucs comme ça.
Bah, par exemple, pour pas que tout le monde se tape dessus, se...
Bah, et qui tape sur l'autre?
Bah, les enfants tapent sur d'autres enfants, sur les plus petits.
Oui, et souvent...
Et fort contre les faibles.
Voilà, voilà. C'est ça un petit peu la raison, hein, toutes les raisons pour lesquelles on fait des lois. C'est pour que ça ne soit pas la loi du plus fort, hein, de celui qui a les plus gros biceps, qui impose sa loi, et puis les autres non plus. Ben oui. Et alors justement, une des premières choses que Korczak va mettre en place dans sa République des enfants, c'est comme ça qu'on a appelé sa maison de l'orphelin, la République des enfants, parce que c'était géré pas uniquement par les enfants et les adultes, n'est-ce pas ? Mais les enfants avaient le droit à la parole, et la première chose qu'il va instituer, la première institution, ce sera un tribunal. Ah ! Un tribunal, mais qui fonctionne avec un règlement, et où on a le droit d'appeler un tel à comparaître devant la justice. Pourquoi ? Eh bien, par exemple, il y a des petits qui se plaignent que les grands abusent de leur force. Il y a d'autres enfants plus faibles qui disent « Oui, moi, on me donne des surnoms, j'en peux plus, hein, je finis par me battre et par me faire punir. » Et ce sont les enfants qui vont essayer de régler ces problèmes. Et si on n'est pas content, il y a encore un conseil juridique qui veille à tout cela. Et je vais vous donner, j'ai apporté quelques exemples de ces lois, si ça vous intéresse. Alors, attendez. Tiens. Alors, il y a le code de loi, voilà. Par exemple, article 10... Le tribunal ne voit rien de blâmable dans l'action de X qui a au contraire donné l'exemple de courage civique. Le tribunal considère que A avait le droit de s'exprimer ainsi. La responsabilité de l'action de A retombe sur B. Puisque le délit a été commis à plusieurs, il serait injuste d'en accuser un seul. Etc., etc. Alors, pour la petite histoire, Korczak, lui, il est passé 5 fois devant le tribunal. Oui. Bon, on raconte une histoire de rampe. Moi, j'ai sais qu'il aurait descendu la rampe comme ça, comme il ne faut pas faire. Lui, il dit autre chose. Une fois, c'est parce qu'il a frotté un peu trop fort les oreilles d'un enfant. Une autre fois, parce qu'il en a vexé un, etc. Il y avait quand même des petits délits. Bon.
Oh. Najbliższy czwartek odbędzie się posiedzenie sądu. Sądu?
Tak, naszego sądu. Mamy tu sąd i rady. Sędziów wybieramy raz na 3 miesiące, a jak mamy do nich zaufanie, jak sprawiedliwie sądzą, to zostają na drugą kadencję. Ja byłem raz przez 3 kadencje. Sądziłem pana doktora za to, że jedną dziewczynkę brzydko przezwał w niebie. Dostał 100, znaczy paragraf 100 i musiał ją przeprosić.
A właściwie to kto to jest? Ten wasz pan doktor.
Ty nie wiesz, kto jest pan doktor?
No skąd mam wiedzieć? Vous avez traduit plusieurs œuvres en français de Janusz Korczak. Vous êtes aussi enseignante. Comment pourrait-on définir la pédagogie de Janusz Korczak?
Alors, pour définir la pédagogie de Korczak, je crois qu'il y a 2 mots qui conviendraient. Une éthique et une pratique. Korczak, ce n'est pas un théoricien. Il a écrit énormément d'ouvrages de pédagogie dans lesquels vous ne trouverez que des exemples de son expérience et où il parle autant de l'éducateur que de l'enfant. Ce que l'éducateur doit apprendre, comment il doit se mettre à l'écoute, comment il conseille même que l'éducateur tienne un journal de ses expériences pour voir, pour revenir sur ses erreurs et pour progresser. Donc, il n'y a pas que l'enfant qui s'éduque, il y a aussi l'éducateur qui s'éduque lui-même. Ensuite, c'est une éthique parce que, pour Korczak, l'enfant, c'est une personne. C'est pas l'élève d'un côté et le professeur. Voilà. C'est une personne. Et en tant que personne, elle a droit au respect. Pour Korczak, quand il dit comment aimer un enfant, c'est pas le couvrir de bisous et de caresses, c'est d'abord le respecter et l'écouter. Et c'est donc savoir attendre, parfois.
Collège Georges Courteline à Paris 12e, Christiane Gaïry et sa classe de 5e 1.
Bon, donc, les deux heures sur lesquelles on va travailler ensemble sont la suite de ce que nous avons fait la semaine dernière, ce que vous avez écrit. Donc, l'objectif de ce cours va être de développer et de mettre en scène ou de mettre en forme le travail que vous avez fait, qui est le travail d'écriture. Au fond, quand je vous avais posé la question, qu'est-ce que c'est pour vous qu'un droit de l'enfant? Qu'est-ce que c'est pour vous que les droits de l'enfant? Vous avez dit un certain nombre de choses, on est d'accord? Bon, voilà. Alors, donc, mon idée est la suivante. C'est que parmi tous les droits de l'enfant que vous avez retenus, certains d'entre vous vous touchent davantage que d'autres. Quelqu'un veut passer au tableau pour écrire? Vas-y, Fic, alors.
Le droit à choisir sa religion. Très bien.
Je suis pas sûre, mais dans certaines religions, en général, on est élevé avec la religion et on reste dans cette religion ainsi que les parents. Mais moi, par exemple, dans ma famille, il y a des personnes qui croient en Dieu, moi, j'y crois pas.
Au fond, tu poses la question du droit de croire ou de ne pas croire aussi. Grégoire, tu veux intervenir là-dessus?
C'est que je connais certaines familles où c'est les parents qui ont pris cette religion et les enfants, ils n'ont pas vraiment le choix. Dès qu'ils naissent, c'est un peu leur culture.
D'accord. Ok, Léonie.
Mais aussi qu'on est... tous les enfants n'ont pas de religion. Il y a certains enfants qui n'ont pas de religion et ça aussi, il faut le respecter, ceux qui n'ont pas une...
En fait, c'est choisir sa religion et c'est le droit de ne pas avoir de religion aussi. Oui. C'est ça que tu veux dire. Est-ce que tu peux ajouter ça au-dessus, s'il te plaît, Inès?
Le droit de ne pas être impliqué.
Le droit de ne pas être impliqué. Tu écoutes ça, Charlotte?
Car l'enfant, il a des droits, mais c'est pas forcément ceux d'un adulte. Donc il a le droit de ne pas participer à la guerre, alors que les adultes, eux, ont le devoir de participer à la guerre. L'enfant, elle a des droits, mais ce ne sont pas les mêmes que ceux de l'adulte.
Finalement, derrière ça, ce qui te touche, ce serait que des enfants soient impliqués dans des guerres.
Je m'appelle Gisèle Jamais, je suis née de parents polonais et juifs. J'ai été enseignante pendant 40 ans et je suis née dans un berceau. Dans mon berceau, j'ai trouvé Korczak et les camps de concentration. C'était mon cadeau de naissance.
Et qu'est devenu Korczak après dans votre vie?
Mon premier bain, c'était ma crème de tous les jours, puisque maman avait travaillé dans l'orphelinat de Korczak à l'intérieur du ghetto de Varsovie pendant un peu plus d'un an. Et donc c'était dans sa vie à elle, et c'était donc dans la mienne. Je connaissais rien d'autre comme méthode d'éducation. C'était la méthode de toutes les mamans, de tous les papas. On parlait à table, on avait les mêmes droits que nos parents. On ne battait pas un enfant, c'était pas prévu. Pour moi, c'était la vie normale de tous les enfants.
Alors, qu'est-ce qui se passait dans votre classe?
Dans ma classe, rien, sauf qu'il n'y a jamais eu de la pagaille. Il n'y a jamais eu de désordre, quels que soient les élèves, les écoles, tous les cadres, les zones dans lesquelles j'ai enseigné, y compris dans une école où on m'avait dit trois élèves ont déjà fait de la prison et chez nous, on ne peut pas les coller, il n'y a personne pour les garder. Je me suis dit, allons-y. Et puis, ça s'est passé.
À vous écouter, tout semble idyllique.
Non. Non, c'est pas idyllique, mais c'est beaucoup plus facile quand
Je le dis maintenant parce que j'ai le recul, mais je me demandais toujours pourquoi mes collègues avaient des problèmes de discipline avec les uns, avec les autres. Et moi, je ne rencontrais pas les mêmes difficultés. Que l'enfant soit dissipé, c'était évident, qu'il soit instable, qu'il gigote, c'était évident, mais sans avoir d'agressivité. Et je comprenais pas très bien pourquoi. Et donc, c'est bien qu'il se passait quelque chose de différent. Donc, un élève qui ne voulait pas travailler, par exemple, qui n'était pas intéressé, s'il voulait se mettre au fond de la classe et dormir, ça ne me gênait pas. Si c'est accepté par les autres élèves, il n'y a aucun problème à ce qu'il puisse se reposer en classe. Il a le droit d'être fatigué, pas intéressé, c'est son droit. Et c'était tout au début de ma carrière, un élève qui ne voulait pas travailler, donc que j'ai autorisé à dormir en classe. Il pouvait même être plusieurs. Et petit à petit, ce qui se dit en classe, puisqu'on ne dort pas tout le temps, finit par avoir un intérêt, d'autant plus intéressant qu'on n'est pas obligé d'écouter, donc on n'est pas captif. Et à la fin de l'année, il m'a offert son cahier d'histoire géo. Admirablement tenu. Merci.
Émilien, qu'on n'a pas entendu, puis Axel.
Le droit à l'égalité.
Le droit à l'égalité, oui. Comment tu dirais ça?
Pour que tous les enfants aient les mêmes droits égaux et qu'ils puissent tous aller à l'école et apprendre les choses, etc.
L'égalité dans l'éducation.
Oui.
Oui. Et d'elle.
Le droit d'être aimé.
Le droit d'être aimé. Tu veux écrire ça, Charles, le droit d'être aimé.
Pour moi, le droit le plus important, c'est le droit à la parole. Parce que je trouve que ça englobe un peu tout. Ne pas être impliqué, dire non, choisir sa religion, non au racisme. Tout ça, on peut l'obtenir si on a le droit à la parole.
L'idée qui me séduit le plus chez Korczak, et qu'on trouve dans la plupart des dispositifs qu'il met en œuvre, c'est le sursis. Korczak est frappé par le fait que les adolescents, les enfants qu'il a, sont souvent dans ce que les psychiatres appellent le passage à l'acte. Ils sont énervés, ils se battent, ils ont un désir, un caprice, un besoin, et immédiatement, ils viennent se précipiter sur l'éducateur, ils ont une pulsion, et immédiatement, ils veulent la réaliser sans attendre. Et Korczak a parfaitement compris que le désir, la pulsion, le besoin... Eh bien, il faut les médiatiser. Il faut prendre le temps d'y réfléchir. Prendre le temps de réfléchir avant de se battre, par exemple. Voilà quelque chose de tout à fait étonnant. Alors, quand on regarde aujourd'hui les dispositifs qu'il propose, on peut s'en amuser. Il donnait 10 points par semaine pour les bagarres. Et il enlevait 3 points pour les petites bagarres, 5 points pour les bagarres moyennes et 6 ou 7 points pour les grosses bagarres. Et il va avoir ce coup de génie pédagogique et politique à la fois, qui consiste à dire, eh bien, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez taper sur n'importe qui comme vous voulez, mais à condition de le prévenir par écrit 24 heures à l'avance. Alors évidemment, ça peut paraître tout à fait curieux, mais il ajoute une chose simplement très simple et très forte, ça oblige l'enfant à réfléchir avant de se battre. Et rien que ça, réfléchir avant de se battre, c'est pas simplement structurant de ce qu'est l'éducation, c'est structurant de ce qu'est la démocratie, et c'est même, on peut aller plus loin, structurant de ce qu'est la civilisation. Apprendre à réfléchir avant de se battre, c'est bien la moindre des choses d'en faire le cœur de l'éducation.
Gisèle, on a l'impression que tout est permis chez Korczak.
Non, chez Korczak, tout n'est pas permis. Alors, c'est pour ça qu'il a fait des règles, qu'il a fait établir des règles par le Parlement des enfants. Pour une république, il y a des lois à respecter. Et je peux dire que dans mes classes, les règles étaient bien plus sévères que dans les classes de mes collègues. Interdiction de sortir son portable sur la table, interdiction de fouiller dans son cartable, interdiction de mâcher du chewing-gum, interdiction de se balancer sur les chaises, obligation d'avoir des feuilles doubles, propres, un cahier recouvert d'une couverture d'une certaine couleur décidée collectivement. Plein d'obligations, mais finalement acceptées par tous.
Ce n'est pas un peu la carotte et le bâton?
La carotte peut-être, mais avec quoi au bout de la carotte et quel bâton? Parce qu'il n'y a pas de bâton. En 40 ans, je n'ai pas mis une seule heure de colle. J'ai pas dit que je n'ai pas donné de punition, mais je n'ai pas collé selon les règles institutionnelles. Parmi mes punitions, il y avait apprendre par cœur un poème, au choix parmi ceux que je proposais, c'est-à-dire ceux que j'aimais à ce moment-là, et ça a donné une dérive. J'étais obligé de supprimer cette punition, puisqu'il y avait des élèves qui venaient me voir en me disant « J'ai oublié mon matériel, je n'ai pas fait mon travail, je voudrais un poème. » Et alors qu'ils avaient leur cahier, fait leur travail. Donc c'était plus drôle la punition. Il a fallu changer de punition. Mais j'ai gardé le poème pendant très très longtemps. Comme punition, l'apprendre, apprendre le poème et le réciter devant la classe. C'était une punition.
Liczyłeś kiedyś swoje blizny?
Nie, a po co?
Warto by policzyć. Są wojenne pamiątki po bójkach, po ranach i po odważnych czynach. A tu co, pies się ugryzł?
Skąd pan wie?
Ja dużo wiem.
Philippe Mériot, expliquez-nous la boîte aux lettres.
La boîte aux lettres est un dispositif au départ inventé par Korczak parce qu'il était surmené, surchargé. Vous savez, Korczak, comme vous le savez, dans la maison de l'orphelin, mais aussi dans notre maison, a des enfants qui sont au départ très violents, mais très vite très demandeurs de l'aide de l'adulte. Et il le vampirise en permanence. Ils viennent lui demander à Korczak, fais-moi mon travail, viens me raconter une histoire, explique-moi ça, viens tenter de me réconcilier avec l'autre. Ils sont toujours à le tirer par la manche pour faire quelque chose. Et Korczak, comme souvent les éducateurs avec des enfants difficiles comme ça, ne fait pas face. Et c'est là où il a cette idée tout à fait géniale. Il dit aux enfants, écoutez, je ne peux pas répondre dans l'immédiat, je ne peux pas répondre tout de suite. En revanche, je vous promets de tous vous répondre si vous m'écrivez. Alors, il y a protestation générale, puisque un certain nombre d'enfants disent « Mais moi, monsieur, je ne sais pas écrire, moi, je ne sais pas lire. » Korczak dit « Qu'à cela ne tienne, vous dicterez votre lettre, vous ferez lire votre lettre par quelqu'un qui sait lire et écrire. » Et ainsi, il met une boîte aux lettres à l'intérieur de l'orphelinat, dans laquelle tous ceux qui veulent lui demander quelque chose, eh bien, vont être obligés de réfléchir à ce qu'ils veulent lui demander. Et lui-même va relever la boîte aux lettres, et la nuit, il répond à chacun des enfants.
C'est par exemple, l'enfant, il va pas naître, il sait toutes les lois, il sait qu'il faut pas voler, il sait qu'il faut pas tuer, il va pas naître comme ça. Il faut qu'on lui explique. Et donc, si on ne lui dit pas, eh ben, il ne va pas savoir. Donc, c'est un peu la faute des parents s'il fait des...
Ok, finalement, tu dis que les enfants, comme les parents, ils ont droit à l'erreur. On a le droit de se tromper.
Ouais. Oui. Le résumé, ce sera un peu... L'enfant, c'est un être humain. Voilà, c'est pas un... C'est pas parce que voilà, t'es plus jeune qu'un... T'as pas 18 ans... Côté quelque chose qui est différent d'un adulte.
C'est pas... Il y a une très grande psychanalyste qui a dit l'enfant est une personne, tu serais d'accord avec ça?
Oui.
Voilà. Tu voulais ajouter quelque chose, j'ai coupé la parole?
Non.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Około 20 po pobieżnych oględzinach, to dopiero połowa ciała. Nieźle. Ubieraj się.
Je m'appelle Isabelle Colomba, je viens d'écrire un livre qui s'appelle Janusz Korczak, Non au mépris de l'enfance, dans la collection Ceux qui ont dit non chez Actes Sud Junior. Moi, ce qui m'intéresse, c'est son itinéraire, c'est pas seulement ses écoles, ses orphelinats, c'est cette idée que même quand on n'a pas d'enfant, on peut se sentir une responsabilité à l'égard des enfants. C'est-à-dire que les enfants, c'est pas l'affaire des parents, ni même des grands-parents, ni même des enseignants. Ce n'est pas seulement leur affaire à eux, mais c'est l'affaire de toute la société. Moi, je vais dans les écoles et dans les lycées, alors que c'est loin de chez moi, parce que je pense que les enfants ont besoin d'autres adultes que leurs parents.
Korczak est où dans tout ça?
Korczak, il est dans... Pour moi, si vous voulez, je veux dire quelque chose qui va vous faire bondir, mais pour moi, Korczak, c'est comme un arbre. C'est-à-dire que cet homme qui n'a pas eu d'enfant parce qu'il se disait fils de fou, et puis parce qu'on ne peut pas s'engager comme c'est engagé et puis avoir soi-même des enfants peut-être, il est cet arbre, ce chêne solide avec ses racines, ses branches, auxquelles on peut s'accrocher. Et on a besoin de gens comme ça, auxquels on peut s'accrocher, d'exemples. Et quand j'ai lu Korczak, moi, pour la première fois, il n'y a pas très longtemps, il y a 3 ans, je me suis dit, tiens, je m'accroche aux branches de Korczak.
Et vous, comment faites-vous avec vos enfants?
Alors moi, je dois dire que moi, j'ai 4 enfants. Ils sont petits. L'aîné a 13 ans, le dernier a 4 ans. Et j'ai lu Korchak et j'aurais dit, voilà, les enfants, j'ai lu Korchak. Je vais vous lire des extraits. Et notre vie a changé. Parce que pourtant, moi, je suis une fille de psychologue. J'ai toujours vécu autour de gens qui avaient une approche particulière des enfants. Et ça a d'ailleurs été un choc parce que je me suis aperçue que le monde entier n'était pas comme ces gens que je côtoyais. Et donc, je croyais être en avance sur mon temps. Je croyais être pas trop loin de ce qu'il fallait faire avec les enfants. Et quand j'ai lu Korchak, d'abord, ça a été un éblouissement. Et je me suis dit, cet homme me comprend, moi, en tant qu'ancienne enfant. Parce que c'est ça qu'on oublie. On oublie qu'on a été des enfants. Et me comprend en tant que maman aussi. Parce qu'on est souvent débordé. Donc, moi, j'ai lu Korchak et je me suis dit, je vais essayer de changer les choses avec mes enfants, dans la famille. Donc, par exemple, le samedi matin, on s'est mis à, après le petit déjeuner, on s'est mis à imaginer des conseils de famille sur le modèle de la République des enfants. Mes enfants, au début de l'année scolaire, on se réunit, on dit à quelle heure on doit éteindre la lumière le soir. C'est pas moi, maman ou papa, toi, qui va décider. C'est, on va décider ensemble à quelle heure, par exemple, le soir, il faut éteindre la lumière. Et chacun en fonction de ce qu'il est, de son âge et de voilà. Ça paraît tout bête, mais pour moi, c'est ça suivre l'exemple de Korchak dans la vie au quotidien, c'est trouver des solutions pour ne pas être submergé par nos émotions.
C'est cette capacité qu'on trouve chez Korchak, qui, me semble-t-il, nous manque un peu parfois dans les banlieues, de dire « je te respecte donc parce que je te respecte, j'exige le meilleur de toi-même ». Le respect, c'est exiger de l'autre le meilleur de lui-même. Et l'enfant l'entend cela. L'enfant n'aime pas celui qui n'est pas exigeant à son égard, il le considère même le plus souvent comme un pauvre type. Korchak est aimé par les jeunes, est aimé par les enfants et les adolescents parce que Korchak est exigeant avec eux. Et j'aimerais aujourd'hui que dans les banlieues, comme au fond dans les centres-villes, on associe le respect de l'enfant et l'exigence à l'égard de l'enfant, qu'on associe aussi le souci de la réflexion, les faire penser, les faire réfléchir, alors qu'ils sont dans un environnement qui les pousse à la consommation, qui les pousse à la réaction pulsionnelle immédiate, qui les pousse à l'achat compulsif, toutes choses que Korchak n'a pas connues, mais qui sont aujourd'hui tellement importantes du point de vue de notre société que ça n'en rend que plus nécessaire l'intuition fantastique de Korchak, qu'il faut du sursis pour apprendre à penser et à grandir.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sans parents, comme sur une plage de cailloux, sans soleil ni mer, ton monde adulte est si sévère. Non, je ne veux plus me taire, je ne vais pas me laisser faire. Glisser debout sur le toboggan, me comporter n'importe comment, comme un cochon, manger salement. Et si mes enfants étaient rois, pourquoi pas moi je trouvais ça sympa.
Ja myślę, że Korczak jest bardzo uniwersalny.
Je pense que effectivement Korczak est très universel.
Marek Michalak, défenseur polonais des droits de l'enfant.
To widać po reakcjach przedstawicieli różnych państw, gdzie pojawi się myśl korczakowska, to
et je le vois surtout par des représentants de pays très différents qui tout à coup se disent oui, c'est exactement ce que je pense, c'est comme ça que je devrais traiter mon enfant.
A dlaczego jest Korczak taki bardzo akceptowalny na świecie?
Et pourquoi il est aussi important et actuel? Parce que il parle pas de choses d'extrême en quelque sorte, mais il parle de choses justes, il parle de droits de l'enfant.
To jest bardzo prosty przekaz.
C'est un message très simple.
Dziecko to człowiek.
L'enfant aujourd'hui et maintenant, c'est un homme.
Dziecko należy traktować podmiotowo. Należy się mu
l'enfant,
szacunek tak
c'est
jak
un sujet. Il a le droit au respect aussi bien qu'un homme adulte.
Dziecko jest dzisiaj obywatelem, nie z żadnym zadatkiem na
obywatela. L'enfant est aujourd'hui citoyen. C'est pas que nous attendons qu'il devienne citoyen. Il est aujourd'hui citoyen et il doit avoir les mêmes droits de citoyen que les gens adultes. L'enfant est partenaire de la discussion. Et il a le droit de s'exprimer, surtout sur les sujets qui le concernent directement.
Korczak mówił wprost.
Et Korczak d'ailleurs disait, ne te demande pas si les enfants sont intelligents, mais comment ils sont intelligents.
Korczak też mówił, że wśród
Korczak
dorosłych... Korczak
pensait même que dans le monde adulte, il y a beaucoup plus de gens stupides, on va dire, que dans le monde des enfants. Donc ne dites pas que les enfants sont bêtes.
Mais c'est pas ça, avoir des droits. C'est quoi alors avoir des droits?
Eh bien, c'est ça!
Jeśli chodzi o Korczaka, to też mówimy o człowieku, który przemawiał.
Si on parle de Korczak, c'est un homme qui parlait au monde entier. Il parlait il y a 100 ans et ça reste toujours actuel. Ça aussi, c'est l'actualité de Korczak.
Korczak był wielkim wizjonerem. On był
Korczak était aussi un vrai visionnaire, c'était très précurseur, sa pensée était extrêmement précurseur par rapport au temps dans lequel il vivait.
Ale też należy zauważyć, że Korczak wychodzi
mais
ponad
faut même
naszą epokę. On
voir que Korczak nous a même dépassé nous-mêmes, nos temps actuels. Il a développé des pensées qui sont même au-delà de ce que nous pouvons faire aujourd'hui.
Wielki pedagog, wielki filozof,
un vrai pédagogue, enseignant, mais surtout et surtout un grand ami des enfants, extrêmement proche.
Dobry przykład dla współczesnych obrońców praw dziecka. W sprawach dziecięcych należy
et
być bardzo twardy i domagać się
parfait pour les défenseurs de droits d'aujourd'hui. Ça veut dire il faut qu'on se fasse respecter, il faut parfois être dur pour faire respecter les droits de l'enfant, même si ça peut mettre en biais même la vie d'un adulte.
Mais comment faire pour garantir ses droits?
L'humanité se doit de donner à l'enfant le meilleur d'elle-même.
Et doit l'élever dans le sentiment qui lui appartient.
De consacrer son énergie et son talent au service de ses semblables.
No, jeśli Korczak dzisiaj jest tłumaczony i czytany w Japonii.
Mais je pense que si nous savons que les écrits, les livres de Korczak sont édités vraiment partout dans le monde, aussi bien au Japon qu'à Azerbaïdjan, qu'au Biélorussie, en Afrique, parce que Korczak ne parle pas d'un enfant avec une peau noire, blanche ou jaune. Part de l'enfant, tout simplement.
Moi, je veux qu'on me respecte comme toi. Moi, je veux m'exprimer comme toi. Moi, je veux des droits. Comme toi,
Peuf, vous avez dessiné le livre Korczak, Pourquoi vivent les enfants, réalisé avec Mérieux. Pourquoi vous êtes-vous lancé dans cette aventure?
Tous les enfants se ressemblent. Je pense que tous les enfants se ressemblent. Ils réagissent de la même façon. Ils rient, ils pleurent, ils s'étonnent, ils rêvent. Mais ils n'ont pas la même enfance. Et c'est ça qui tire mon attention. Et le destin des enfants que Janusz Korczak avait pris sous son aile, eh bien, on voit bien que ce n'est pas la même enfance que d'autres. Donc c'est ça qui me tire vers eux, c'est aller les chercher. Aller chercher des qualités humaines est vraiment fondamental dans ce petit peuple d'enfance.
Il y a des moments qui vous ont vraiment touché dans cette histoire du docteur Janusz Korczak.
C'est ce type assis au bord d'un trottoir qui fait flotter un petit bateau de papier alors que l'occupant russe en 1906 était là, sur l'autre côté du trottoir. Je crois que c'est ce type qui prend la peine de s'asseoir à hauteur des enfants, il se met à la hauteur des enfants. C'est révolutionnaire, cette attitude par rapport aux enfants.
Comment dessine-t-on l'univers de Janusz Korczak?
Moi, c'est le cri des mots qui m'intéresse, qui force mon trait à s'adapter à cette époque-là. Pour moi, le trait à l'encre de Chine était le plus approprié à représenter la souffrance de ces enfants-là. Je me suis projeté littéralement en arrière et les savoir dans la rue selon Korczak et entendre Korczak dire que c'est des traînes savates, eh bien le reste suit. Je pense que le mot traînes savates, c'est ça qui va guider votre trait. Ce mot-là m'a vraiment enclin à aller dans la violence des traits, des mâchoires serrées, des pommettes hautes puisque c'est la Pologne et ces regards perdus. Ces pauvres traînes savates, la dernière image est celle où les enfants montent dans le wagon qui va les amener à Treblinka où ils vont être gazés le soir même. J'ai voulu que les 150, il y a à peu près 150 enfants sur le dessin, j'ai voulu que les enfants ne regardent non pas les wagons, mais regardent le lecteur du livre. Que ce soit une interrogation de la part des enfants. Regarde ce qu'on nous fait. Toi, lecteur, qui est là, bien au chaud, regarde ce qu'on nous a fait. Et il y a 300 pères Dieu qui interrogent le lecteur.
C'était pas un visionnaire, mais presque. Quelqu'un qui savait comprendre les enfants, leurs besoins. Et je pense qu'il a eu raison de faire ça parce que c'était une occasion de rendre des gens heureux.
Il essaie d'être une sorte de papa pour tous les enfants qui étaient seuls. Et puis, enfin, c'était quelqu'un de gentil vu qu'il leur lisait des histoires et puis il les écoutait bien.
Je pense qu'au départ, quand il a vu toute la pauvreté qu'il y avait, il s'est dit qu'il ne pouvait pas ne rien faire, qu'il ne supporterait pas de voir ça tous les jours. Donc il était obligé d'intervenir, en tout cas de faire quelque chose pour que les enfants qu'il voyait dans cette pauvreté soient mieux. Parce que lui, il n'arrivait pas à supporter ça et donc il a un peu consacré sa vie à aider les enfants à pas vivre dans la peur et dans la faim, enfin, d'avoir une vie, quoi.
Moi, je me le représente un peu affectif pour les enfants et d'autres personnes assez pauvres et qui étaient quand même courageux et enfin, voilà.
Pour moi, Korchak, c'est un peu l'une des premières personnes qui a vraiment regardé la misère des enfants. Parce que les autres gens, ils devaient être au courant. Mais voilà, ils s'en moquaient, ça ne leur concernait pas. Alors que lui, il a vu les enfants dans des quartiers malfamés, qui se mettaient à être de vrais délinquants. Lui, il se sentait concerné par ça.
Bah, comme il le disait, c'était une personne qui a réussi à être touchée par la pauvreté des enfants, leur maltraitance, et qui a réussi à instaurer un ordre chez ses enfants et à pouvoir leur offrir une vie meilleure que sûrement plusieurs adultes le souhaitaient mais n'avaient pas encore osé agir.
Moi, je trouve que c'est une personne bien. Elle a fait pour qu'on ait nos droits à nous et il l'a fait sans espérer aucun revenu, sans rien espérer. Il voulait juste que nous, on ait nos droits, nos chances.
Pour moi, Korchak, je trouve qu'il a su voir comment les enfants, ils étaient maltraités, enfin affamés, et voilà. Donc, je crois qu'il voulait arrêter ça. Et il a essayé, je trouve qu'il a bien réussi.
C'était Janusz Korczak, La parole est aux enfants. Avec Halina Bortnowska, Yvette Métral, Agnieszka Holland, Colette Charlet, Gisèle Jamet, Pef, Philippe Mérieux, Isabelle Colomba, Marek Michalak, Elsa Saladin et les enfants de l'école Jean Jaurès du Pré-Saint-Gervais, Christiane Gaillery et les élèves de 5e 1 du collège Georges Courteline de Paris 12e. Traduction. Claudia Potchadwo de l'Institut polonais. Extrait du film Korczak d'Andrzej Wajda avec la voix de Wojtek Chomiak. La chanson « Des droits comme toi » est interprétée par les enfants des centres de loisirs du 14e arrondissement de Paris. Merci à Zosia Bobovic, Wanda Albinska, Fabrice Magnon, Zosia Modziuszewska à Varsovie. Merci également à Bernard Latuyère, président de l'association française Janusz Korczak. Coordination Irène Omelianenko, Attachée d'émission, Christine Bernard-Gedge, Eve Etienne. Mixage, Julien Douminc. Un documentaire de Dominique Prussac, réalisé par Anna Smuk pour Sur les Docs.
Merci pour votre écoute de cette émission disponible sur le site de l'heure du documentaire. La semaine prochaine sera consacrée à des témoignages sur la folie ordinaire, l'homosexualité, la vasectomie, un sex shop et les dernières fois amoureuses. Et tout de suite, la chronique de Céline Duchesnay.